Pour moi, c'est vraiment une immense joie de vous rencontrer. Depuis le temps que j'entends parler de vous, par travers Marc, enfin je vous rencontre et je vous bénis vraiment de tout mon cœur. Et voilà, c'est une joie particulière de vous rencontrer parce que je sais combien vous avez prié pour moi, pour mon petit frère, et je vais vous expliquer maintenant. Mon petit frère, l'année dernière, a eu une rupture d'anévrisme. Donc, c'était très grave pendant qu'il était dans les études sur Paris. C'est arrivé un matin, et donc, effectivement, il a eu, je ne sais plus, 3 ou 4 litres de sang accumulés dans le ventre. Donc, c'était assez dramatique. Sa vie était vraiment en danger. Et je peux vous dire une chose, c'est que la main du Seigneur était sur lui. Il n'a pas eu de conséquences graves. Alors, il est toujours suivi par les médecins, mais sa vie n'est plus en danger. Il y a encore des éléments à améliorer. Il a encore des examens réguliers. Il a toujours des vacillements encore sur ses résultats médicaux. Mais bon, voilà, le Seigneur, je sais, il continuera à œuvrer avec puissance. Il n'a jamais failli à ses promesses. Et ça, pour moi, je suis une preuve vivante. Dès l'âge de 3 ans, ma vie aurait dû s'arrêter. J'ai fait une chute de 2 mètres de haut chez mes grands-parents. J'avais une tendance à jeter la balle de la fenêtre de la ferme. Et je suis tombé en bas. Voilà. Mais c'était le premier miracle de ma vie. C'est ce qui a échelonné la raison de ma présence parmi vous et la raison pour laquelle ma priorité des priorités, c'est de plaire à mon Seigneur. Et ça, je pense que ça fait partie des éléments majeurs d'une vie. Et lorsque ma grand-mère m'a ramassé après cette chute, elle a refusé toute conséquence pour une raison simple, c'est que la veille, elle avait prié avec un ancien de l'église. Je suis originaire de Mulhouse, de l'église de Mulhouse, Peter Schmidt, que vous connaissez. Et donc, elle a dit non, je refuse toute conséquence. Et j'étais sorti avec une énorme bosse sur la tête, ma hanche était complètement décalée, j'avais les yeux, les pieds totalement décalés. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, donc elle a prié pour moi, et ensuite, donc j'avais 3 ans, hein, et je suis parti dans le jardin, et je suis revenu quelques 10 minutes, un quart d'heure après, et j'ai dit, Jésus m'a guéri. Je suis allé en boitant, je suis revenu en courant. Ma grand-mère m'a toujours dit, c'était directement le Seigneur qui est venu te rencontrer. Voilà. Et pour cette raison-là, pour moi, le service pour le Seigneur, ce n'est que normal. Voilà. Avec tout ce qu'il a fait, j'ai vécu des miracles immenses toute ma vie. Donc voilà, si je commence à raconter, on est mal. Mais voilà, en tout cas, c'est la raison pour laquelle je veux servir mon Seigneur. Et c'est, je pense, une fois qu'on a commencé à vivre la gloire de Dieu, on n'a plus envie que ça s'arrête. Et jeunes gens, vous savez, vivre la présence de Dieu, c'est pas une science-fiction. C'est pas juste un instant T. Comme le week-end dernier, j'ai entendu que vous avez vécu des choses glorieuses, et je bénis le Seigneur pour ces moments-là. Mais maintenez cette entre guillemets pression, pour que ce que vous avez vécu ne reste pas sur un instant T, sur ce que le Seigneur a permis de faire il y a 10 ans. Non, il va encore le faire au quotidien. Et je pense que je veux encore féliciter l'équipe de louanges. Bravo, merci pour ce que vous avez apporté, merci pour votre cœur, et vraiment de tout mon cœur, merci. La louange que vous apportez n'est pas juste des mots, c'est la profondeur de votre cœur, et je crois vraiment que ce que vous êtes est avant tout ce que Dieu veut. C'est pas juste prier, chanter, non. C'est bien plus profond que ça. La louange et l'adoration, c'est la continuité de ce qu'on vit dans la semaine. Et pour ça, j'aimerais prendre avec vous un texte qui va nous encourager à vivre dans la foi. La foi, ce n'est pas, non plus une science-fiction. La foi, c'est être capable d'être différent dans le monde. Lorsque j'étais au collège, il y a encore des collégiens ici, non ? Il n'y a plus de collégiens ? Ils sont... Bon. Oui, c'est vrai. Quand j'étais au collège, j'avais une particularité, c'est qu'on m'appelait Jésus. J'ai dit, waouh, quel privilège ! Pourquoi ? Parce que j'aimais annoncer l'évangile tout le temps. Les gens qui avaient besoin, quoi que ce soit, j'aimais annoncer l'évangile. J'ai un cœur d'évangéliste, voilà, ça c'est, voilà, c'est comme ça. Mais c'est ma passion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai un travail séculier, mais ma passion, c'est l'évangile. Et lorsque j'étais au collège, j'ai appris à aimer la présence de Dieu avant tout. Tout à l'heure, on l'a entendu. La sœur l'a dit tout à l'heure, aimer la présence de Dieu au-delà des promesses. La bénédiction de Dieu, c'est une chose glorieuse, mais bien plus aimer et aimer la présence de Dieu jusqu'à sa suffisance. Seigneur, oui, tu m'as béni, mais c'est ta présence qui est bien plus importante que tout. L'amour de la parole. J'aime bien quand tout à l'heure, j'ai aimé tout à l'heure quand Marc a donné ce passage du psaume 119. Le psaume 119 est un chapitre que j'affectionne tout particulièrement. Parce qu'il donne les détails de ce qu'est la parole de Dieu pour nous. Ou plutôt ce que la parole de Dieu devrait être pour nous. Parfois, il y a un décalage. On se rend compte que la parole qui est Christ. Si on prend le psaume 119, on se rend compte que c'est 100% Christ. C'est là cette passion. Et Jésus va nous démontrer encore ce qu'est la foi avec un texte un peu particulier dans Marc 7. Alors c'est pas un texte qu'on a l'habitude de prendre, Marc 7, verset 24. Alors, je ne sais pas s'il s'affiche, non ? Bon. Marc 7, verset 24. 24 à 30. Il partit de là, donc Jésus, et s'en alla dans le territoire de Tyr. Il entra dans une maison, il voulait que personne ne le sache, mais il ne put être caché. Car une femme dont la fille avait un esprit impur entendit aussitôt parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était grecque d'origine syrophénicienne. Elle lui demandait de chasser le démon de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux chiens. Mais elle lui répondit, Seigneur, les chiens sous la table mangent même les miettes des enfants. Il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Quand elle rentra chez elle, elle trouva l'enfant étendu sur le lit, le démon était sorti. Amen. Alors la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai dit, waouh, je comprends pas tout. On parle d'enfants, de chiens, de pain, de miettes, et à la fin, le démon est sorti. Waouh ! Bon, alors, je crois que c'est une preuve de foi que d'être capable de... Je pense que cette femme avait une vision toute particulière sur ce qu'était la foi dans la parole. Pour moi, donc le pain, bien sûr, c'est la représentation de la parole, mais les miettes également, c'est aussi la parole. Mais ce sont que des miettes. Et ensuite, elle va prendre deux identités, si je puis me permettre, entre les enfants et les chiens. Les enfants qui, j'ai pas encore d'enfants. Alors oui, c'est vrai, je me suis pas présenté, je suis marié, on va fêter nos 10 ans de mariage l'année prochaine, nous n'avons pas encore d'enfants, mais voilà, et donc je n'ai pas encore d'enfants, mais je sais, avec mes petits frères, que quand ils sont à table, c'est pas toujours évident de les faire manger. Et en fait, cette femme, quand elle va décrire ce que font les enfants, me fait penser un petit peu au peuple de Dieu, ou l'Église. On se contente souvent du strict minimum. On nous tend une assiette, là c'est en l'occurrence du pain, On prend ce qui est bon, et c'est juste, mais on ne va pas aller au-delà. On attend souvent des directives du pasteur, des anciens, des personnes leaders, mais on n'est pas tant assoiffé que ça pour l'étude de la parole. Pareil, dès l'âge du quand j'étais au collège, j'aimais me lever une heure plus tôt pour aller, avant d'aller à l'école, pour lire la parole. Alors je ne vous cache pas que il y a bien des moments où c'était le strict minimum. Hein. Un adolescent, il faut s'accrocher. Hein. Donc du coup, pour moi aussi d'ailleurs, il fallait s'accrocher. Il faut demander à ma mère. Le peu que je lisais, je voulais entendre ce que Dieu avait à me dire. La moindre parole, si on compare avec Samuel le prophète, lorsqu'il était jeune, il est écrit, il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et je crois que c'est ce qu'on doit retrouver. On doit retrouver en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, cette passion pour la parole. Cette passion pour la parole en Christ. Après, elle va décrire cet effet pour les chiens. Alors, c'est extrapolé sûrement, mais je crois une chose, c'est que les chiens vont ramasser les miettes. Et même les miettes, on voit d'ailleurs les chiens, s'ils sont sous la table, ils vont chercher jusqu'à la dernière miette. Hein. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'au bout. Ils vont aller jusqu'à rechercher le moindre élément. Et je pense que ce que nous avons à retrouver, c'est d'être des assoiffés, des affamés de la parole. Des affamés de la parole pour que lorsqu'on prie, vous savez, prier la parole, il n'y a rien de plus efficace. On peut entendre des messages, on peut les accumuler, on peut entendre des milliers de messages et à la fin ressortir exactement pareil. Et je crois que ce que Dieu veut nous communiquer, c'est que nous avons à devenir des affamés de sa présence. Il nous a donné la parole écrite. Et dans des pays, j'ai eu l'occasion d'habiter quelque temps en Afrique, et il y a des endroits où il n'y a pas la parole. La parole est interdite. Il y a des endroits où il y a des jeunes gens qui viennent avec des cahiers et la moindre écriture de la parole, ils la recopient. Juste pour avoir ne serait-ce qu'une bribe de la parole. Et la moindre parole écrite, ça les enthousiasme. L'enthousiasme, si on prend littéralement ce que ça veut dire, c'est être relevé divinement. L'enthousiasme, être restauré dans la divinité, restauré dans la présence de Dieu. Je suis enthousiasmé par la présence de Dieu. J'ai eu l'occasion de parler. Donc je suis cheminot. Il y a des cheminots dans la salle ? C'est bien pour ça qu'il faut que je continue à évangéliser. C'est qu'il y a un gros problème. Ça fait 2 ans maintenant que je suis cheminot. J'étais dans le privé commercial dans quelques entreprises. J'ai fait pas mal de métiers, mais là on ne va pas rentrer là-dedans. Mais quand je suis rentré dans cette entreprise, donc en 2013, quelques 3 ou 4 mois après, j'ai pu annoncer l'évangile à un conducteur de train. Et puis bon, on était à un signal fermé, donc bon, on attendait. Et puis bon, j'annonce l'évangile. Et puis je lui donne un peu ma passion et lui dire que voilà, un jour, j'aimerais être pasteur. Et là, il s'est passé quelque chose. Vous savez, je suis quelqu'un, j'ai besoin d'une vision. J'ai besoin de savoir, de connaître la direction où je vais pour être bien ferme dans mes appuis. Et cet homme se retourne sur son siège. Il me dit, Laurent. Alors, Être pasteur, c'est super. C'est un beau projet. Et là, il rajoute, mais est-ce que tu ne serais pas à SNCF pour nous sauver, nous ? Ça a le mérite d'être clair. Un homme qui a des antécédents protestants, moi je dis que je suis évangélique, j'annonce l'évangile avec clarté sur Christ, moi je ne cherche pas l'étiquette évidemment. Et là, quand il me sort ça, j'ai fondu en larmes à l'intérieur. Je dis, Seigneur, c'est ça la vision que j'attendais. Quoi demander de plus ? Et au fur et à mesure que j'avance, encore il y a 2 semaines, non, il y a 4 semaines, ça passe vite, et j'annonce l'évangile à un jeune cheminot qui était embauché récemment, et puis il me dit, mais... Alors, c'est un peu particulier parce qu'il était en formation, donc je l'ai formé pendant toute une journée, et puis, donc c'était de... Je commençais à midi, je finissais à 20h, donc midi à 20h. À 14h, je lui annonce l'évangile. Et 14h30... Et j'avais un départ de train. Bon, ben 14h30, départ de train. Hop. Et puis là, il commence à me poser des questions jusqu'à 20h. Je lui ai annoncé l'évangile avec clarté. Il me dit, écoute, ce soir, j'ai rendez-vous avec un curé. Ah bon ? Oui, oui. Et bien maintenant, je sais, je connais déjà mes réponses avant d'aller chez lui. Une semaine après, j'avais une autre personne à former. Et je dis, écoute... J'ai toujours ma Bible, alors pas celle-là, j'ai une Bible Thompson, je la mets toujours dans mon sac. Depuis le collège, elle est toujours dans mon sac. D'ailleurs, elle est dans un état pitoyable, c'est pour ça que j'aime comme ça. Et là, pareil, il me pose des questions, je lui annonce l'évangile, toujours pareil, et puis il me commence à me poser des questions. Et puis il me dit, tu sais, ma maman, elle est magnétiseur. Alors. Allons-y. Et voilà. Et donc, on a pu continuer. Mais vous voyez, ce que je veux en venir, c'est que simplement l'obéissance. Si Dieu a dit à Samuel de dire à Saül que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, ça vaut tous les détours. Un instant, un mot, et puis le Saint-Esprit fait le reste. Face à une personne qui a l'habitude avec sa maman, qui a quand même un certain respect pour sa mère, qui va aller lui raconter ce que je lui ai dit. Malheureusement, je ne l'ai pas vu depuis, parce que je suis venu à Nanterre après. Mais, donc voilà, c'est annoncer l'évangile avec passion. Et vous savez, je me rends compte d'une chose, c'est que ce que vous apprêtez à faire, d'annoncer l'évangile, c'est quelque chose... de glorieux, parce que les gens sont assoiffés de vérité. Et vous savez ce qui manque ? Ce sont des repères. Les gens ont besoin de repères. Et si vous savez qui vous êtes, si vous savez exactement ce que vous avez à dire, les gens sont confondus. Parce qu'ils se rendent compte que vous avez une fermeté, une assurance... Comme les disciples. Les disciples n'avaient pas une grande éloquence, mais ils savaient exactement qui ils étaient. Et c'est ce qui a fait d'eux des hommes efficaces. Mais pour ça, il faut lire la parole. L'amour de la parole va faire de vous des assoiffés, et en étant vous-même assoiffés, vous allez vous chercher la vérité, pour que eux-mêmes, lorsque le monde vous verra fonctionner, ils verront la différence. Donc il y a 4 semaines, lorsque j'ai annoncé l'évangile, j'ai eu une réponse de ce collègue que je pense tout chrétien aimerait. Il me regarde, il me dit, j'en étais sûr. Je savais bien qu'il y avait quelque chose chez toi qui n'était pas pareil. C'est quand même glorieux, non ? Mais est-ce que c'est moi ? Mais pas du tout. Si vous saviez ce que je suis, vous partiriez. Mais je sais que le Saint-Esprit qui est en moi va faire la différence. Le Saint-Esprit qui est en toi fait la différence. Et cette femme va, si on prend une deuxième facette, une deuxième possibilité il est quelle heure ? 36. Parce que si je commence à parler et qu'on m'arrête pas, ce soir vous y êtes encore. Hein. Je crois également que quand la femme a commencé à parler de cette manière-là, je me suis posé la question, est-ce que ce ne serait pas une vraie révélation de Christ à la croix ? Si on prend dans cette situation-là, il y a la révélation, les miettes, on pourrait comprendre que c'est la révélation du corps de Christ brisé à la croix, et les enfants seraient l'Église, et les petits chiens seraient soumis à des révélations. Je crois que, bien au-delà de juste lire la parole, le fait d'être assoiffé va nous pousser à vivre des révélations. Pour ma part, les plus grandes révélations de ma vie ont été à genoux. Ce n'est pas des prédications. Je vais vous raconter ce qui s'est passé en 2004. 2004, c'était juste avant la formation que j'ai vécue avec Marc. Excusez-moi, je vais boire un coup. Je suis assoiffé. En 2004, pendant 6 mois, j'ai vécu quelque chose de très particulier. Un dimanche, je rentrais du culte et mon père, qui était gravement malade à l'époque, pendant 10 ans, me dit, voilà, il a écouté une bande sonore et c'était à la radio ou à la télé, je ne sais plus. Il me dit, voilà, je me suis rendu compte que y a des juifs encore qui utilisent le tétragramme YHWH, pour citer Yahvé. Et ça a travaillé un peu mon cœur. J'ai dit, mais... Alors, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Hein. J'ai dit, mais Seigneur, moi aussi, je veux vivre cette relation avec une reconnaissance, avec la crainte de l'Éternel, jusqu'à son nom propre. Et puis, le soir, donc j'avais eu l'habitude de prendre du temps avec le Seigneur le matin et le soir, et encore aujourd'hui, et je prie, et puis, pendant que je prie, je ressens dans mon cœur, Laurent, tais-toi. Fais silence un instant. Bon. Je parle beaucoup, mais quand il faut me taire, je sais me taire. Et là, je ressens dans mon cœur toute la gloire de Dieu, au point d'avoir cette crainte de défaillir devant toute sa gloire. De défaillir, de me sentir tellement pécheur que ne serait-ce que de lever le visage, je pourrais totalement être anéanti. J'ai commencé à vouvoyer Dieu, j'ai commencé à me cacher le visage à chaque fois que je rentrais dans sa présence. Et vous savez, ce n'est pas la terminologie, ce n'est pas ce que Dieu veut au final. Et ça a duré 6 mois. Et puis, un matin, je prie, et là, pareil, ressens dans mon cœur, Laurent, fais silence maintenant. Et là, il s'est passé quelque chose qui m'a totalement saisi et transformé dans toute mon existence. Il me dit, Laurent, tu sais maintenant qui je suis et qui tu es. Dieu grand, moi petit. J'ai dit, Seigneur, que je diminue afin que tu croisses. Il dit, maintenant, je veux être un père pour toi. Je suis Dieu, mais je veux être un père pour toi. Il dit, Seigneur. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai vécu ce que tout le monde pourrait rêver. J'ai senti l'amour du Père, mais d'une profondeur que j'ai dit, Seigneur, pour toujours, je veux annoncer ton amour. Multiplier les mots ne servent à rien. Je veux communiquer ton amour. Et l'amour de Dieu dans toute sa splendeur, dans toute sa simplicité également. Et je sais que malgré les difficultés, ma charge à moi, c'est de transmettre autour de moi l'amour de Dieu. Mais l'amour de Dieu véritable. Et l'amour de Dieu se vit dans la foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi ? Eh bien, pour moi, la foi, c'est être capable de faire confiance à Dieu au-delà des circonstances humaines. Je m'explique. J'ai travaillé quelque temps dans l'immobilier et dans l'expertise. Et je me suis... je travaillais énormément. Je commençais le lundi matin vers 7h et je terminais le samedi soir très tard. Je mangeais rarement le midi. Et puis, je savais que mon salaire n'était pas juste. Je faisais entre 300 et 700 km par jour. C'était énorme. Mais bon, après, je dis, Seigneur, c'est toi, tu es mon salaire. J'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile, vous pouvez imaginer, à un grand nombre de personnes. Et je dis, Seigneur, je te fais confiance, avant tout. Et à la fin, donc, j'ai démissionné. J'ai démissionné sur conviction. Je vais vous raconter l'histoire également, si j'ai le temps. Je suis parti avec un chèque, mes amis. Je peux dire, donc j'ai travaillé 3 ans dans cette entreprise et il me dit, je sais qui je perds. Waouh. Et quand j'ai trouvé ce travail, je lui ai annoncé l'évangile clairement. J'avais mon adresse email qui s'appelait jesus.majoie@onavu.fr. Il me dit « Vous êtes sûr ?» Ah, j'ai dit « Oui, j'en suis sûr. » Je cherchais du travail avec mon CV jesus.majoie@onavu.fr. Ça marque. Ça a le mérite de faire poser des questions. Et puis, à la fin, il me dit « donc avant la fin de mon préavis, il me dit ce qui serait bien, c'est que vous me trouviez une personne qui peut vous remplacer, qui vous ressemble. J'ai trouvé une personne qui me ressemblait. J'ai pris quelqu'un de l'église. Attendez, même mieux que ça. Il trouve quelqu'un pour parce que finalement, j'avais trouvé personne. Il me dit, j'ai trouvé quelqu'un, est-ce que vous pouvez le former ? Je dis, ben oui, je peux le former, bien sûr. Dans la voiture, évidemment, un quart d'heure de route, je lui annonce l'évangile. Et il me dit, ah bon, mais toi aussi, t'es chrétien ? Ah bon ? C'était quelqu'un de chrétien qui était de l'église de Belfort, que je ne connaissais pas. Et il me dit, ah bon ? Et donc, j'ai dit ça au patron. Il me dit, ah ben voilà, je suis rassuré. Alléluia. Et donc je suis descendu dans le sud sur une conviction. On m'a pris un peu pour un... Parce que le patron dans l'immobilier avait l'intention de me céder son entreprise. Je dis non, je ne veux pas. Vous savez qui je suis, je crois en Dieu. Et je veux le servir et je sais que mon appel est là-bas. Donc je suis vers Nîmes. Où j'ai rencontré mon épouse, qui est d'Alès. Enfin, je l'ai rencontré en Suisse, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Donc, je suis arrivé à Nîmes, sans rien. J'avais ma valise, je suis arrivé là-bas, je n'avais rien. Mes beaux-parents habitaient vraiment dans la campagne. Enfin, si vous connaissez un peu Nîmes et Alès, Alès, c'est un peu plus loin, et je cherchais du travail côté Nîmes. En sachant que je suis arrivé dans le sud le 1er mai et que notre mariage était prévu le 14 juillet. Vous voyez jusqu'où va ma folie. J'ai démissionné tout en le sachant. Hein. Je suis arrivé là-bas. Une personne d'une église que quelqu'un connaissait me dit « Oui, quelqu'un peut te loger ?» Je dis « D'accord, ok. » Et puis elle m'a logé pendant un mois. Et puis, parce que le problème, c'est que pour chercher du travail, il faut un logement. Pour se trouver un logement, Enfin, vous voyez. C'est toujours le même problème. Donc, il me fallait une adresse stable. Et donc, j'ai pu utiliser l'adresse. Et pendant un mois, stress, hein, l'échéance qui arrivait, le mariage qui devait arriver, c'était pas sans souci. J'ai pleuré, j'ai jeûné, j'ai dit « Seigneur, je sais que ma place est ici et je sais que tu agiras. » J'ai envoyé un grand nombre de CV. J'ai fait un entretien. L'entretien s'est bien passé. J'ai commencé le 4 juin. J'ai trouvé un appartement le 14 juin et on s'est mariés. Non, j'ai trouvé mon travail le 14 juin. J'ai trouvé un appartement le 4 juillet et on s'est mariés le 14 juillet. Quoi de mieux ? Je dis, Seigneur, je sais que c'est là. Mais pour ça, on a besoin de connaître notre identité propre. Si on regarde dans Philémon, j'aime beaucoup ce texte, j'aime beaucoup ce chapitre de Philémon, parce que c'est une preuve vivante. On ne va pas le prendre ce matin, mais c'est une description totale de l'intercession. Vous aimez intercéder, vous priez beaucoup. Et je crois que... Je crois que Philémon donne toutes les catégories, comment il faut prier, comment il faut intercéder. Et comment il commence ? Moi, Paul, apôtre et esclave de Jésus-Christ. Il sait exactement qui il est. Quand il prie, il sait qui il est. J'ai une maladie, une pathologie endocrinienne qui s'appelle la maladie d'Addison. La forme la plus sévère qu'il puisse y avoir. On est très peu dans le monde, c'est une maladie orpheline. Qui s'est déclarée en 2009 suite à un choc émotionnel. Mon petit frère s'est noyé. Il est vivant, je vous rassure, mais moi je l'ai vu noyer. Ils l'ont ressorti, les secours l'ont sorti de l'eau. Les yeux révulsés, raides. Pour moi, ça a été un choc terrible. Et puis, à partir de ce moment-là, je commence à avoir des maux de tête terribles. Et donc, il s'avère qu'après un mois d'examen, j'avais cette maladie d'Addison, que le président Kennedy Senior avait. Donc moi, je commence la maladie, je suis président après, bon, on verra. j'ai réalisé que cette pathologie avait une je ne dis pas qu'elle vient de Dieu, hein. Je ne dis pas ça. Mais par contre, elle m'aide profondément à rester dépendant de lui. Et je crois que ce que nous avons besoin de comprendre, l'amour de la parole nous donne une dépendance totale de lui. Je devrais être interdit de jeûner, je jeûne. Je devrais être interdit de travailler de nuit, je travaille en 3-8, je travaille en 3-8, mais tout va bien. L'année dernière, j'ai fait une crise, il y a 2 ans, que vous avez connue à travers Marc, où j'ai fait une intoxication alimentaire, et c'est le pire qui puisse arriver pour une maladie comme ça, c'est que je prenais ma cortisone, donc je prends un traitement de corticoïdes plus lévothyrox, parce que j'ai une hypoparathyroïdie, et un adénome hypophysaire. Donc voilà, c'est la forme la totale. Donc je devrais être régulièrement en phase de chute, etc. Mais vous savez, être dépendant de Dieu, ça veut dire qu'on le laisse s'occuper de nous. Et je le laisse s'occuper de moi à travers vos prières. Et je vous bénis pour ça. Parce que si je suis encore en vie, c'est parce que vos prières ont été efficaces. C'est parce que vous avez choisi. Alors, je parle de vous ici ce matin, mais il y a un grand nombre qui a prié. Parce que ma femme est infirmière. Quand elle m'a vu gris, elle savait exactement ce qui se passait. Et je suis encore en vie parce que vous avez été fidèles. Si Dieu est fidèle, vous l'êtes aussi. Et je vais vous bénir pour cela. Vous savez, il y a la fidélité de Dieu qui est importante. Mais il y a votre fidélité et notre fidélité importante. Vous savez, je crois que la prière, c'est une alliance que Dieu a créée. C'est un engagement de sa part et de notre part. La prière, c'est lorsque Jésus disait, lorsque vous réunissez, je suis au milieu de vous, lorsqu'il dit, lorsque tu pries dans ta chambre, Dieu le Père te voit, c'est un engagement. Il s'est engagé à te répondre. Il s'est engagé. Nous, maintenant, à nous de nous engager à rester fidèles et être capable de prier. Je suis heureux parce que ce matin, c'est un peu une assemblée multiethnique. Et je sais que moi, en Afrique, je suis arrivé là-bas, j'avais 4 ans et demi. Il y a une chose qu'on nous a appris, c'est que si tu veux garder ta tête sur les épaules, qu'on ne te coupe pas la tête, il faut apprendre à prier à genoux. Voilà. Et vous savez, prier à genoux, c'est pas anodin. Bien sûr, on va dire l'humilité, la plus importante, c'est dans le cœur. Oui, c'est très important. Mais physiquement, montre au diable que tu es humilié devant Dieu. Amen. Que le diable sache à qui il a affaire. Parce qu'il n'a pas affaire à toi, il n'a pas affaire à moi, il a affaire à Christ. Je suis humilié à Christ, c'est lui qui répond à ma prière. Là, toutes les échéances, vous savez, j'ai des parents qui m'ont exercé à cette foi. On est rentré d'Afrique, on n'avait plus rien. Plus rien. Et on a été logé pendant 9 mois chez des amis près de Bâle, en Suisse. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec des factures, mais un truc de dingue. Et il me dit, un jour, mon père, il prend la facture, les factures, il dit, Seigneur, on a été en Afrique, c'était pour toi, pour te servir. Je dis pas qu'il faut le faire tout le temps, hein. Il dit, Seigneur, on a été en Afrique pour toi. Pour te servir. Il a pris les factures ensemble, il les a toutes déchirées. Et vous savez ce qui s'est passé ? Acquitté. Pas un centime. Plus rien nous a été demandé. Rien. Et je vais vous raconter une dernière histoire et j'en terminerai là. En Afrique, on est arrivé là-bas, pareil, on est arrivé. Plus rien, on s'est tout fait voler dans les malles. On jouait avec ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi, on jouait à la Seine-Seine avec des capsules de coca et avec des morceaux de bois. Voilà, comment on apprend à jouer. Et puis à un moment donné, je commençais à perdre la raison. J'avais presque 5 ans. J'avais pas pu aller à l'école parce qu'on n'avait pas les moyens. Ma sœur y avait été, mais on n'avait pas les moyens. Et j'ai double nationalité suisse et c'est le consulat. On a été voir le consulat suisse. Et puis on dit voilà, on a besoin d'une bourse pour que je puisse aller à l'école. Et on fait dossier sur dossier, toujours refusé. Et puis à un moment donné, quelques mois plus tard. On reçoit une feuille comme quoi j'étais inscrit à l'école. Ok. Je dis, Seigneur, merci. Gloire à toi. Et on va voir l'ambassadeur. On va dire, merci, on vient vous remercier parce qu'apparemment, notre dossier est passé, on a eu la fiche d'inscription. Il dit, oui, je sais. Mais la bourse n'est pas passée. Je dis, comment ça, la bourse n'est pas passée? Non, il nous regarde bien droit dans les yeux. Il dit, messieurs, dames, j'ai payé pour vous. Ça représentait 1 an de salaire. Messieurs, dames, j'ai payé totalement la scolarité de votre fils. Vous comprenez pourquoi je veux servir mon Seigneur ? Vous en voulez d'autres ? J'en aurais. Hein. Mais vous savez, ce qui fait un homme, les décisions. Ce qui fait un homme, ce sont les décisions. Ce sont les décisions qui nous ont précédés. À chaque fois que tu prends une décision, ça résonne dans l'éternité. ça résonne pour ton avenir. J'ai 34 ans dans quelques jours et je suis heureux de servir mon Seigneur. Peut-être que je suis un peu taré, mais c'est vrai que quand je travaille de nuit le dimanche, je termine à 4h du matin, je rentre à 5h, je me lève à 7h et je pars prêcher. Mais ça, si c'est pas la passion, il n'y a rien. Je suis un passionné de VTT de descente. Eh ben, VTT de descente, vélo de course, piano, etc. Pour ça, il n'y a pas de problème, hein, mais pour prêcher aussi. Et vous savez, annoncer l'évangile, c'est pas tout simple. C'est extraordinaire. Ça apporte un enthousiasme. Quand j'étais dans l'immobilier, tous les dimanches après-midi, je partais évangéliser avec un ami. Tous les dimanches après-midi, le samedi soir, on passait une nuit de prière, on partait à l'église, on allait à l'assemblée à Mulhouse, à la PO, et le dimanche après-midi, on partait évangéliser, on a fait Mulhouse, on a fait Guebwiller, Strasbourg, etc. On partait dans les rues, on annonçait l'évangile. Puis un jour, il y a deux jeunes filles qui viennent vers nous, et on leur avait donné la semaine d'avant un traité, et puis on leur avait partagé l'évangile. Et puis elles nous regardent comme ça fait. Ah, oh, vous êtes des anges. Waouh! J'annonce l'évangile à un musulman qui était en train de lire le Coran et je lui annonce l'évangile. Pourquoi pas? Et il se lève, il me dit: mais c'est ça que j'ai besoin d'entendre. J'ai besoin d'entendre la vérité. Mais s'il vous plaît, continuez, annoncez la vérité. Mais les musulmans, ils ont besoin de quoi? Frères et sœurs, bien-aimés, si on n'annonce pas l'évangile, on aura honte de voir les pierres crier par nous. À notre église, dans l'église où je suis, on fait quartier libre. Quartier libre.
Ouais.
Alléluia. Le premier week-end, le premier samedi, on avait 31 enfants. Le mois d'après, on en avait 41. Et le troisième fois, 65. Voilà. Glorieux Seigneur. J'aurais tellement à raconter, mais pour moi, le plus important, c'est que ce que vous avez à retenir, si on a une chose à retenir, c'est d'aimer passionnément, au-delà de tout, la présence de Dieu. Au-delà de tout. Je ne suis pas guéri, j'ai toujours cette maladie, mais vous savez, quelle que soit la réponse à mes prières, qu'elle soit comme je l'entends ou non, son amour pour moi ne change pas.
Amen. Alléluia.
Mais mon amour pour lui ne change pas non plus.
Amen.
Que vous puissiez comprendre que l'amour de Dieu ne dépend pas des circonstances. Que nous puissions le saisir à chaque instant, s'il vous plaît. Que cette foi puisse être grandissante, que cette foi puisse être un sujet de joie pour vous, un sujet à questionnement autour de vous. Parce que les gens se posent des questions. Quand on est différent, les gens se posent des questions. Et que la gloire de Dieu soit manifeste. Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Vous voulez voir la gloire de Dieu ? Regarde ton frère. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais regarde ce que fait le Seigneur dans sa vie. Tu veux voir la gloire de Dieu, mais il répond tous les jours. Regarde ton frère. La passion. Que le Seigneur puisse vraiment vous révéler son amour, vous révéler la puissance de sa grâce. Dans le nom de Jésus, merci Père pour ta fidélité. C'est une joie tellement immense de te servir. C'est un privilège tellement glorieux d'être présent avec mes bien-aimés ici. Je les bénis dans le nom de Jésus. Je te demande grâce. Merci d'intervenir et que mes bien-aimés puissent voir qu'encore aujourd'hui, tu opères des signes et des prodiges pour chacun d'entre nous. Père, merci pour ta fidélité. Avant tout, merci pour ta fidélité. Père, montre-nous combien tu aimes l'amour. Combien tu aimes l'humilité. Combien tu aimes l'unité. Combien tu aimes la fidélité. Père bien-aimé, merci pour cette église. Et je demande vraiment que ta grâce soit abondante dans leur vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.